En tout premier lieu, dans les outils qu'utilise Jésus quand il est en dialogue avec ses pharisiens, donc avec ses tentations d'arrêter ou de mal faire, jouer ses rôles de prêtre, il y a la parabole. Donc la parabole, ça nous parle un petit peu. La parabole, c'est raconter une histoire. Alors, les intérêts d'une parabole, c'est qu'on peut enseigner simultanément des personnes qui ont des intentions divergentes, bienveillante et malveillante. C'est-à-dire qu'on peut avoir un auditoire disparate, hétéroclite, et pourtant, avec la parabole, chacun de nos interlocuteurs va être en mesure de recevoir des choses, de recevoir en fonction de sa compréhension de la parabole, quoi. Celui qui a une foi riche, celui qui a une foi plus pauvre, etc. Deuxième intérêt d'une parabole, c'est que ça ouvre le débat, on sort du rapport conflictuel. Souvent, il y a des questions qui sont mal posées. On le voit hein, quand on a des discussions avec des personnes et qu'on tourne en boucle chacun parce que chacun défend un point de vue un peu un point de vue, je dirais, on a tous quelque chose à dire et donc on s'enferme dans ce dans quelque chose. La parabole normalement permet d'en sortir. Troisièmement, on évite de se faire piétiner par des personnes qui ne sont pas en capacité de recevoir des choses riches. Parce qu'effectivement, on a compris certaines vérités qui sont riches, qui sont belles, qui nous permettent d'avancer. Mais certains, si on va leur dire, ne comprenant pas, vont se servir de ce qu'on leur a dit pour nous attaquer, en fait, pour répandre autour d'eux que on leur a dit ça, etc. Vous voyez, ça va se retourner contre nous. Là, du coup, comme la personne va comprendre selon son propre degré de foi, ou de recherche, au moment où on lui parle, en tout cas, du coup, il n'y a pas ça, parce qu'elle pourra toujours dire aux gens autour d'elle, il m'a raconté une jolie histoire, mais c'est presque inattaquable, en fait. Ensuite, autre intérêt de la parabole, l'imagerie utilisée dans notre parabole reste, c'est-à-dire que c'est des choses qui frappent les esprits, et donc ça nous permet vraiment à tous de méditer après coup, et même à nous qui parlons de ça. Ensuite, autre intérêt, ça donne du temps pour réfléchir, hein, forcément, parce que le temps de bien comprendre les différents éléments, et puis ça prépare la contre-attaque, notamment dans la situation du miroir dont je vais parler après, qui est une des techniques, un des sept outils employés par le Christ. Voilà. La parabole, en fait, est un des outils pionniers dans les discussions. C'est un des outils qu'il est conseillé d'utiliser en premier. Enfin, on peut l'utiliser plus tardivement dans une discussion, mais c'est un des outils qu'on peut utiliser en premier sans risque, en fait, comme on va le voir. Alors, comment marche une parabole ? La méthode. Alors, une parabole, il faut toujours mettre en scène des personnes tierces. C'est-à-dire, on va ouvrir le débat et on va sortir du « moi-tu ». Voilà, je ne parle pas de moi en prenant un exemple qui me concerne. Je vais parler d'une personne tierce qui peut être réelle ou imaginaire. Ça peut être même un personnage politique. Quand Jésus parle de la tour du Siloé qui s'est écroulée, c'est une parabole, en fait. C'est-à-dire qu'il met en scène une situation qui frappe les esprits et qui ne concerne pas directement, a priori, les interlocuteurs. Qui ne met pas en défaut un des interlocuteurs. Il n'est pas dit que parmi les interlocuteurs de Jésus, il y avait l'architecte de la tour de Siloé. Donc on est bien en situation de parabole. Deuxième chose dans la méthode, c'est de centrer sur le point qui achoppe. C'est-à-dire que on va détecter chez notre interlocuteur qu'il y a un blocage chez lui. Il a du mal à comprendre quelque chose. Et on va monter notre parabole sur l'élément qui achoppe. C'est-à-dire que, par exemple, Jésus va parler aux pharisiens qui récriminent, et l'élément qui achoppe chez eux, c'est qu'ils sont tristes à propos de leurs frères, les publicains, les prostituées, etc. Et Jésus va faire trois paraboles de la miséricorde, où la fine pointe, ça va être la joie en regardant son frère, quoi. Voilà. Et quand on arrive à avoir cette joie-là, eh bien, on est capable d'avancer dans notre vie, en fait. Et donc, il va monter ces paraboles-là avec la brebis perdue, avec la femme qui perd sa pièce et qui la retrouve et qui se réjouit, et le fils prodigue. C'est vraiment la joie qui est au centre. Donc, si les interlocuteurs avancent sur la parabole, ils vont passer par-dessus l'obstacle qui, pour l'instant, les empêchait d'avancer. Voilà, on centre sur le point qui achoppe. Troisième chose, toujours dans la méthode des paraboles, on ne traite qu'un seul problème à la fois. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement piégeux aujourd'hui. C'est qu'il y a beaucoup de sujets qui font difficulté. Par exemple, des personnes vont être en révolte contre telle ou telle chose. Donc, évitons de cumuler les sujets chauds dans la discussion, en fait. On va éviter de parler à la fois, par exemple, sans forcément parler des paraboles, mais à la fois de l'avortement, de l'euthanasie, vous voyez, il y a un certain nombre de choses. Parlons d'un sujet, pas plusieurs. Sinon, forcément, c'est comme si on permettait à une armée d'être en face de nous, au lieu de n'avoir qu'un ennemi. Et on termine la parabole, soit en posant une question sur le point qui achoppe, et on se sert de la réponse de nos interlocuteurs pour les faire avancer ou pas, ou alors on démontre leur contradiction s'ils ne vont pas avancer. Par exemple, Jésus demande, à votre avis, que fera ce maître à ces vignerons qui l'ont trahi? Et les pharisiens répondent, il les fera périr misérablement. Voilà. Donc Jésus, lui, avait énoncé une parabole pour dire, est-ce que d'après vous, la miséricorde est une valeur importante pour pouvoir faire avancer le monde? Et là, ils sont en train de dire, en gros, il faut tous les tuer. Donc Jésus pointe le fait que dans l'Écriture, il est dit, n'avez-vous pas lu, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est-à-dire, est-ce qu'à votre avis, l'Écriture n'invite pas à faire miséricorde, en fait? Est-ce que c'est pas plus constructif? Parce que là, ils n'ont pas avancé, manifestement. Voilà, donc ça, c'est pour quand on pose une question sur le point qui achoppe. Soit, dans certains cas, on peut aussi conclure soi-même pour emporter l'adhésion de ses interlocuteurs. Par exemple, Jésus dit, « De même, je vous le dis, il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. » Là, on est dans le cas où, vraisemblablement, on devine que nos interlocuteurs vont avoir besoin de temps pour avancer. Il ne faut pas leur demander « qu'est-ce que vous en pensez ?» et espérer avoir une réponse positive. Mais on va plutôt souligner la bonne réponse que nous, on aimerait entendre en disant « mais ne trouvez-vous pas que c'est une bonne réponse ?»« Ne trouvez pas que c'est beau ? Il y a de la joie dans le ciel ?» Vous voyez ? Donc ça, c'est de la finesse, en fait, d'arriver à voir est-ce que l'autre, il est en mesure d'avancer ou pas, quoi. Voilà. La parabole, c'est ça.
Qu'est-ce qu'il existait à l'époque chez les Juifs ou dans le judaïsme de comparable ? Parce que la religion juive utilise aussi beaucoup les récits, les histoires, mais qu'est-ce qu'elles ont de spécial les paraboles du Christ par rapport aux manières dont les rabbins à l'époque ou même par la suite ont utilisé cette manière d'enseigner ?
Moi, je pense que ça existait dans le judaïsme. Parce que on a dans les Targum, enfin tous les Midrash, tous les écrits juifs, on a parabole d'un roi qui partit en voyage et qui voulut marier sa fille. Vous voyez, on s'exprime comme ça, parabole de nanana, et on fait comprendre une vérité. Et la parabole va centrer sur un point, c'est-à-dire que va considérer que tous les autres points, on peut accepter qu'ils soient inacceptables, quoi. C'est-à-dire que l'économe infidèle, bah, il est infidèle, mais Jésus, lui, ce qui l'intéresse, c'est de souligner qu'il est rusé. Et il est rusé avec l'argent trompeur. Donc, on peut accepter que le reste ne soit pas forcément joli, parce que Jésus, lui, il dit, en gros, retenez bien que ce qui m'intéresse dans cette situation que j'explique, c'est le fait qu'il soit rusé, quoi. Il se fait des amis avec l'argent trompeur. Voilà. Et ça, on en trouve pléthore dans la tradition juive. Et je pense que le Christ, ce qu'il avait de plus que les rabbins, c'est qu'il mettait les paraboles, je dirais, dans un ensemble d'outils rhétoriques. Moi, ce que j'ai appelé les sept outils rhétoriques du Christ. Et les sept mis ensemble, c'est une arme terrible de dialogue, en fait. C'est-à-dire que quand on maîtrise ça, on va très loin, quoi.
Il est la parole, hein.
Il est la parole, voilà. Donc, on peut imaginer que peut-être que certains rabbins avaient ce talent-là, mais c'est pas forcément le cas de tous, quoi.